Décrypte, le podcast de l'actualité numérique en Afrique, avec Adil Abdelali.
Et cette semaine, nous sommes ravis de recevoir Antan Ndiaye, principal au sein de Sawari Ventures, une société de capital risque panafricaine ancrée en Égypte et qui investit dans des sociétés technologiques en early stage, avec l'ambition de créer des ponts entre l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient. Alors, nous allons décrypter avec vous, Antan Ndiaye, l'évolution du marché de l'investissement technologique en Afrique, ses perspectives d'avenir également. Et pour commencer, nous pourrions d'abord nous arrêter sur les derniers indicateurs dont nous disposons. En Afrique, comme dans le reste du monde d'ailleurs, l'investissement a ralenti effectivement en 2023. Comment expliquez-vous ce constat et quelles seront, selon vous, les tendances pour les années à venir ?
Vous avez raison tout d'abord parce que l'investissement en capital risque a ralenti dans le monde. L'Afrique, en fait, à l'image d'autres marchés émergents, a été davantage touchée que le reste du monde, avec notamment un net recul d'investissement, je crois, autour de 50% par rapport à l'an dernier. Mais je pense que cette phase, elle est avant tout cyclique. Et elle se pose en réaction à l'expansion fulgurante de 2021. Parce qu'en fait, quand on regarde la tendance sur les 5 dernières années, on observe que les montants levés aujourd'hui sont supérieurs à ceux de 2020, donc qui indique bien une tendance à la hausse sur le moyen terme. Parce que en fait, ça s'appuie sur des fondamentaux solides. Donc il y a plusieurs choses, dont des économies en croissance. Il y a également une forte croissance démographique, donc une population jeune et une classe moyenne émergente qui consomme en fait de plus en plus. On observe aussi une digitalisation des secteurs traditionnels qui s'appuie, je dirais, sur un fort taux de pénétration d'Internet et aussi une infrastructure fintech qui est grandissante. Et enfin, on voit aussi, une accélération des écosystèmes tech qui repose, on voit surtout sur des réservoirs de talents qui s'élargissent. Et des hubs technologiques qui sont en pleine croissance, donc avec les Big Four notamment en tête de file. Donc je pense que cette tendance, elle va repartir à la hausse sur un horizon court terme, surtout lorsque les taux d'intérêt et l'inflation repartiront à la baisse en Occident et que le marché sera plus liquide. Donc je pense qu'on va alors davantage se tourner en Afrique vers une phase de stabilisation de croissance avec une consolidation des écosystèmes qui vont se développer de façon plus durable. Et je pense qu'on peut observer aussi, en tout cas nous on observe deux grosses tendances qui se dessinent à l'échelle globale. Donc il y a l'intelligence artificielle qui impulse une vraie révolution portée par des grandes entreprises technologiques et qui, on voit aujourd'hui en fait, pivotent leur focus sur l'IA et la résilience climatique. On voit que c'est un nouveau thème fort, je dirais, d'investissement dans le cadre notamment de la transition vers des économies à faible émission de carbone. Et en fait, ces deux tendances, elles sont au cœur du développement en Afrique. Donc, je pense qu'elles vont continuer à susciter un grand intérêt de la part des investisseurs sur le continent sur les prochaines années.
Alors, il est vrai que la fintech s'accapare la part du lion des investissements en Afrique. Mais au-delà de la fintech, vous avez parlé notamment d'autres secteurs, d'autres segments, l'IA notamment et la cleantech. Quels sont pour vous justement les secteurs porteurs à l'avenir pour les startups africaines ?
C'est un très bon point. Et pour faire écho justement à ce que vous disiez, en tout cas, la clean tech a suscité beaucoup d'intérêt et je pense que c'est appelé à se confirmer sur les prochaines années parce que le marché est vraiment à la recherche de solutions innovantes qui répondent au changement climatique. Et il y a d'autres secteurs aussi, je pense, comme la health tech et l'agritech qui ont suscité de l'intérêt. Je pense que d'ailleurs, ces deux secteurs comptent parmi les quelques rares secteurs qui ont enregistré une hausse en termes de montants levés l'an dernier. Donc, en health tech, les startups qui ont réussi à lever, c'est surtout des entreprises qui proposent des solutions nouvelles en termes de chaînes d'approvisionnement et d'assurance. Et donc, ce que je disais, c'est qu'on a pu observer des modèles gagnants qui ont été ceux, en fait, qui ont capitalisé sur l'utilisation de la technologie pour notamment améliorer les soins aux patients. Donc, tout ce qui est application de gestion de santé, services de diagnostic, de suivi, pharmacie en ligne. On peut citer l'exemple de la start-up égyptienne Shefa, qui est une pharmacie digitale centrée sur le patient, qui a levé un tour de table là, en fin 2023. Du côté de l'agritech, le secteur, je crois, a enregistré une grosse croissance de plus de 60% dans mes souvenirs en termes de volume de montants levés. Et c'est un secteur qui, je pense, les années précédentes, a vu de plus petits volumes d'investissement parce que certaines startups peuvent nécessiter des capitaux importants. Et notamment des investissements en CapEx et aussi présenter une saisonnalité, ce qui peut impliquer, je dirais, des délais de retour sur investissement plus longs que ceux auxquels la plupart des VC sont habitués. Sur l'agritech, on a vu pas mal de business models qui ont marché autour des agro marketplaces, de l'agro lending et aussi de l'agro processing. Donc, je pense que cette tendance à la hausse, elle va se confirmer, notamment à cause de préoccupations de plus en plus importantes comme la sécurité alimentaire. Donc, ces trois secteurs, donc que ce soit l'agritech, l'healthtech et la cleantech, sont vraiment au cœur de la stratégie d'investissement de Sawari Ventures, aux côtés d'autres secteurs comme la deep tech, donc on en parlait tout à l'heure avec l'intelligence artificielle, où en fait on observe de véritables besoins en innovation sur ce qu'on appelle le first layer, la couche en fait inférieure, qui couvre surtout les puces et les semi-conducteurs pour alimenter en gros la puissance de calcul des machines. Et l'infrastructure, donc qui est nécessaire pour entraîner les modèles d'IA, ainsi que le second layer, donc la couche au-dessus, qui couvre l'infrastructure de données, donc tout ce qui est autour du stockage, gestion et traitement, les données et tout ce qui est large language model.
Et à contrario, pourquoi d'autres segments comme l'EdTech peinent à attirer justement des investissements et des fonds malgré le besoin énorme en Afrique dans le secteur de l'éducation, par exemple?
L'éducation, en fait, c'est un secteur qui a du mal à attirer des fonds. Je crois que c'est le secteur qui a attiré le moins de fonds l'an dernier. Dans mes souvenirs, on est autour de 1% du volume de montants levés en Afrique. En fait, les premières raisons, je dirais, elles sont intrinsèques à la nature des business qu'on peut retrouver dans ce secteur. Donc, souvent, des cycles de vente longs, des process d'approvisionnement qui peuvent être complexes, donc qui peuvent du coup ralentir la scalabilité, pardon, de la start-up. Il peut y avoir des challenges aussi autour de la régulation, de la saisonnalité, avec des décisions d'achat qui sont concentrées sur certaines périodes de l'année, donc du coup qui peuvent avoir encore un impact sur la génération de revenus. Il y a des difficultés d'adoption aussi, parce que les produits souvent peuvent demander l'adhésion, je dirais, de plusieurs parties prenantes, donc que ce soit les enseignants, les parents ou les établissements. Et le dernier point, c'est aussi autour de la difficulté de trouver son business model, parce que la génération de revenus, c'est pas aussi simple que ce qu'on peut retrouver dans une entreprise SaaS typique, par exemple. Donc là, c'était vraiment je dirais, les raisons intrinsèques liées à la nature de ce type de business. Mais si on se place maintenant à l'échelle du continent, le problème, en fait, au départ, résidait surtout dans l'adoption, à cause notamment d'un manque d'accès à Internet ou accès à des outils comme les ordinateurs ou aussi, je dirais, des infrastructures de paiement. Mais aujourd'hui, cet accès, il s'est davantage démocratisé, mais il y a peu de solutions sur le marché qui apportent, je dirais, des solutions de qualité, enfin, en fait, vraiment qui apportent de la qualité. Pour lesquels les clients sont prêts à payer. Alors que, en fait, quand on y pense, le financement de la scolarité, c'est un des coûts les plus importants des ménages, mais cet investissement ne se reflète pas, en fait, dans les montants levés dans le secteur. Donc, on a vraiment compris que quand un produit atteignait un certain seuil de qualité, là, les clients étaient prêts à payer. Et en fait, on a une start-up qui s'appelle Almentor. dans laquelle on a investi, qui est une plateforme éducative qui est leader dans la région MENA, qui produit et distribue son propre contenu vidéo, donc ça, que ce soit de développement professionnel, mais aussi personnel, en arabe. Et ils ont aujourd'hui plus de 2 millions de personnes qui regardent ces contenus. Et en fait, ils sont en mesure de contrôler la qualité du contenu qu'ils produisent, donc eux-mêmes. Et ils ont aussi réussi, je dirais, à passer d'un modèle B2B à un modèle plus équilibré entre des abonnements B2C et B2B et des flux de revenus B2G.
Bon, intéressons-nous à présent, si vous le voulez bien, aux pays qui attirent le plus d'investissements à l'échelle africaine. Alors, on le sait, le Big Four capte aujourd'hui l'essentiel de ces investissements, mais à l'avenir, quels sont pour vous les pays qui pourraient justement bousculer cet ordre établi, les pays les plus prometteurs qui pourraient concurrencer en quelque sorte prochainement ces pays du Big Four?
C'est un bon point. Donc, les Big Four, donc l'Égypte, le Kenya, l'Afrique du Sud et le Nigeria, captent vraiment l'essentiel des investissements. Pourquoi? Parce que ce sont les économies les plus importantes en Afrique et ce sont celles aussi qui rassemblent le plus de consommateurs. Mais donc, il y a d'autres écosystèmes qui se développent plus rapidement aussi, en partie parce qu'il y a déjà un précédent. Donc, on peut retrouver, par exemple, des évolutions au Sénégal qui étaient présentes il y a 5 ans en Égypte dans le secteur du paiement. Et les écosystèmes en Afrique francophone sont vraiment des marchés en plein boom. Enfin, en tout cas, on voit que c'est en plein boom. C'est, dans mes souvenirs, la région qui a présenté une augmentation de la participation des VC. Donc, c'est la seule région, dans mes souvenirs. Et il y a aussi, on voit en fait de plus en plus de VC internationaux aujourd'hui qui ciblent la région et qui viennent investir au vu, je dirais, de nombreuses opportunités encore aujourd'hui qui sont inexploitées parce que la région, elle présente en tout cas de véritables fondamentaux qui permettent aux startups ensuite de se développer de façon soutenable et pérenne dans les années à venir. Donc il y a plusieurs éléments comme il y a plus de mais c'est quelque chose que vous savez déjà sûrement mais les grosses macros c'est qu'il y a plus de 400 millions de consommateurs je crois qu'il y a 6 des 10 économies les plus rapides en Afrique. Il y a aussi une zone économique intégrée donc l'UMOA avec des régulations et une monnaie commune une monnaie d'ailleurs qui est indexée sur l'euro. Ça c'est un gros avantage. Et la région aussi, on a vu plusieurs grosses sorties et des licornes qui ont surtout montré, je pense, et là le point qui est intéressant, qui ont montré qu'on pouvait lancer et scaler des sociétés valorisées à plus de 1 milliard de dollars à partir de petits marchés.
Et aujourd'hui, quels sont selon vous les principaux challenges pour les startups africaines?
En fait, les startups, elles sont confrontées à différents types de challenges. Donc, il y a, je dirais, une première catégorie de challenge qui est liée au marché et qu'on peut d'ailleurs retrouver, je pense, dans d'autres types de marchés émergents, donc autour de la régulation notamment, donc la bureaucratie par exemple qui est un point assez important, mais des challenges aussi macroéconomiques, donc autour de l'inflation, des dépréciations. On l'a vu l'an dernier dans des marchés comme le Nigeria ou le Kenya, on a pu observer de nombreuses fermetures de start-up. Et surtout un repli important des investisseurs. Donc ça, c'est la première catégorie de challenge. Puis on a des challenges aussi qui sont propres, je dirais, à tous les entrepreneurs. Trouver le bon cofondateur, trouver son product market fit, trouver du financement. Et donc là, c'était particulièrement, surtout au niveau du financement, un peu plus compliqué. Donc ce que je vous disais, il y a eu ce fort repli des investisseurs. Et ça a entraîné des challenges, en fait, comme surtout des valorisations à la baisse. On a vu qu'il y avait aussi une plus grande exigence sur tout ce qui est unit économique, le cash burn et le path to profitability. Mais je pense qu'on a pu aussi identifier des opportunités, notamment pour les sociétés les plus solides, qui peuvent en fait capturer plus de parts de marché face à des sociétés qui n'ont pas survécu. Et je pense que ça pousse aussi à développer des modèles beaucoup plus soutenables, plus rapidement.
Très bien. J'ai une dernière question à vous poser, Antan Diaye. Vous, en tant qu'investisseur, quels sont les critères essentiels, primordiaux, que vous prenez en compte lorsque vous étudiez un projet ?
Au-delà des critères classiques, je dirais, comme le marché, le problème, le produit, le business model ou la compétition, on cherche vraiment des entrepreneurs exceptionnels qui développent des solutions innovantes en Afrique, qui répondent à de larges problèmes sur le marché, dans des industries comme la fintech, la cleantech et d'autres industries dont j'ai parlé précédemment, je ne vais pas me répéter. Et qui ont déjà trouvé leur product market fit et qui cherchent à scaler, que ce soit sur le continent ou au Moyen-Orient. Donc, j'en ai parlé un petit peu précédemment aussi, mais on recherche des entrepreneurs qui ne sont pas seulement en Afrique, mais qui peuvent être également dans le monde, en Europe ou en France, car on est vraiment convaincu que les diasporas sont un riche vivier de talents, je dirais, qu'on souhaite accompagner, que ce soit soit dans le cadre de lancement de leur start-up, d'expansion, c'est-à-dire qu'avec déjà des activités, par exemple en France, ou de financement de leur start-up.
Eh bien, nous allons conclure ce podcast sur cette dernière réflexion. Antan Diaye, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions.